Radio Okapi. Grande interview.
Angèle Makombo, présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC en sigle, est l'invitée de votre magazine Grande Interview. Avec elle, nous parlerons des consultations convoquées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la création de l'Union sacrée de la nation. Merci à Jean-Claude Nsiala qui a la prise de son, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bienvenue à tous dans votre magazine. Angèle Makombo, bonjour.
Bonjour, Madame Kéline Kouté.
Vous êtes présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais, c'est un parti politique. Les consultations convoquées par le président Félix Tshisekedi ont débuté lundi 2 novembre à Kinshasa. Plusieurs personnalités responsables des institutions ainsi que de confessions religieuses ont été reçues par le chef de l'État pour la création de l'Union sacrée de la nation. Que pensez-vous, Angèle Makombo, de la convocation de ces consultations par le chef de l'État?
Moi, je pense que c'est vraiment une excellente idée. Le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, par la convocation de ses consultations, montre au peuple congolais que voilà, il était de bonne foi. Vu les réalités politiques du pays, à savoir une alternance démocratique en janvier dernier, il y avait un président, et il y a toujours un président appartenant à une certaine famille politique, dont l'UDP, mais de l'autre côté, il y avait la plateforme FCC qui, cette plateforme, avait la majorité au Parlement, dans les assemblées provinciales, les gouvernorats, etc. Et il fallait bien, pour pouvoir travailler ensemble, créer une coalition. Mais près de 2 ans après la création de cette coalition, il se rend bien compte que l'action qu'il veut mener pour, quand je dis il, je parle du chef de l'État, l'action que le chef de l'État veut mener pour justement réaliser sa vision d'un Congo qui se lève, un Congo prospère, un Congo où instaurer l'État de droit, eh bien, son action est chaque fois plombée par des divergences vraiment qui persistent dans presque tous les domaines, que ça soit sécuritaire, que ça soit humanitaire, que ça soit sur le plan de l'économie, que ça soit sur question de nomination des mandataires, etc., que c'est à chaque fois il y a des blocages. Eh bien, au bout d'un moment, la question se pose, est-ce que je continue avec ce genre de blocage qui vont me mener jusqu'à 2023, date des prochaines élections, où on me dira, moi, président de la République, monsieur Tshisekedi, quel est votre bilan? Ou bien, nous arrêtons les frais maintenant et j'essaye de recomposer, de dégager une nouvelle majorité avec laquelle je peux travailler. Et je pense qu'il a pris la bonne décision. Et d'ailleurs, beaucoup de Congolais n'attendaient que ça. Et ces consultations qu'ils sont en train de mener, au sortir de ces consultations, nous voyons bien que pas mal de ses interlocuteurs disent la même chose. Oui, nous voulons qu'il y ait une séparation, nous voulons qu'il y ait une dissolution de cette coalition pour pouvoir justement dégager une majorité avec laquelle il pourra travailler. Non, moi je pense que ces consultations, c'est une excellente idée. Et quand on dit consultation, c'est pas des concertations. Concertation, ça allait donner des discussions peut-être interminables pour dégager un consensus pour certaines actions. Non, là, on est dans des consultations où le chef de l'État, en tant que père de la nation, écoute son peuple, écoute toutes les forces vives de la nation, et de là, il va tirer ses conclusions. Et comme il l'a dit, il va revenir vers nous pour dire, voilà les options que j'ai levées. Non, vraiment, j'appuie ces consultations.
Vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart de ses interlocuteurs demandent la dissolution de la coalition FCC et CACH. D'autres vont plus loin même en demandant la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela ne risquerait pas de créer une nouvelle crise?
Évidemment, il y a des risques, hein, mais je pense que qui ne risque rien n'a rien. Ayant une coalition qui a vos mains liées, qui vous mène à ne rien faire, Eh bien non, pour le peuple congolais, ça serait pas payant. Bon, maintenant, il faut recomposer cette majorité. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient qu'effectivement, on ne peut pas mener une action politique, une action gouvernementale, si on n'a pas une majorité qui vous soutient. Et moi, j'aurais été pour, justement, une dissolution. Mais la dissolution, évidemment, elle implique de prendre certaines actions, mesures, il faut prouver crise, il faut ceci, cela. Donc, ça demande de respecter les dispositions constitutionnelles. Et là, ça peut peut-être créer des problèmes, mais en tout cas, recomposer la majorité parlementaire, c'est absolument indispensable. Et de ce petit moment de turbulence que nous allons avoir, eh bien, ça va dégager une majorité. Et là, il pourra travailler et vraiment avoir une action qui, en 2023, il pourra en répondre devant le peuple congolais.
Il y a par exemple le président du CENSA, Joseph Olenga Nkoy, qui a dit à Félix Tshisekedi que le mieux aurait été de rencontrer d'abord Joseph Kabila avant de convoquer ses consultations.
Oh, moi je suis pas de cet avis. Combien de rencontres n'y a-t-il pas eu entre le président Félix Antoine Tshisekedi et celui qu'on appelle l'autorité morale du FCC? Il y en a eu plusieurs. Certaines rencontres, je pense même que nous, peuple, on n'était pas au courant. Et chaque fois, au terme de ces rencontres, on nous disait ça va aller mieux. On nous disait qu'ils ont dilué les divergences, qu'ils ont aplani les difficultés. Et avant qu'on se remette même de cette rencontre, il y avait à nouveau des tensions, blocages, des tentatives de toutes sortes, on parlait même d'essayer une procédure de destitution. La CENI, on voyait bien là où on s'orientait dans le choix du leadership de la CENI. Non, moi je pense qu'au bout d'un moment, on parle, c'est bien de parler, mais si le dialogue qu'on a, les conversations qu'on a, les points de vue de convergence qu'on semble avoir arrêtés, ensuite on les viole. Ensuite, ça ne donne rien, ben non. Il faut savoir rompre, repartir du bon pied, et surtout en pensant en premier lieu au peuple congolais. Ça allait être encore des promesses non tenues. Non, moi je pense pas qu'il était nécessaire d'avoir une telle rencontre.
Est-ce que vous pensez vraiment que ces consultations peuvent offrir au président Tshisekedi une majorité et un gouvernement acquis à la réalisation totale de son projet de gouvernance? On sait que de l'autre côté, le FCC non plus ne va pas se laisser faire.
Oui, mais nous savons aussi que les personnes versées à la politique, et même celles qui sont moins versées à la politique, savent très bien que cette majorité que nous avons, FCC, elle est factice. C'est une majorité fabriquée. Et que les gens sont dans cette majorité pas par conviction politique, mais par arrangement, par positionnement. Et la majorité qui pourra composer, il y a d'autres leaders avec qui il n'a pas travaillé dès le départ. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Katumbi, il y a Fayoulou, il y a Bahati. Donc il peut bien recomposer cette majorité et qui lui permettra de travailler.
Mais même si on additionnait les nombres de députés, de Fayoulou, Katumbi, Bemba, ils ne vont pas atteindre la majorité absolue.
Oh, certainement. Vous savez, moi, ce que je suis convaincue d'une chose, c'est que avant même d'aller dans ces consultations, le chef de l'État, en homme politique averti qu'il est, avait déjà fait des pré-consultations. Savait à peu près, avec qui il pourrait travailler demain, et maintenant il est en train de peaufiner, finaliser, etc. Donc, au FCC, laissez-moi vous dire, je suis persuadée qu'il y aura des personnalités qui vont traverser, qui vont rejoindre le chef de l'État. Et d'ailleurs, dans la presse, vous le relevez, vous les personnalités des médias, vous nous dites bien que a-t-elle accepté de rejoindre telle... Regardez le geste fort qu'a fait Pius Mabiulu. Quand il a fallu assister à la prestation de serment des trois juges à la Cour constitutionnelle, sa famille politique n'y est pas allée, lui il est allé. Il a dit par devoir républicain. Donc on aura a constaté qu'il y a des personnalités avec un sens républicain très poussé qui vont rejoindre justement le président Félix Antoine Tshisekedi pour l'aider, l'accompagner, le soutenir, participer à l'action qu'il mène pour justement un Congo, pour l'émergence d'un Congo prospère, d'un Congo où va régner l'état de droit. Donc, il y aura, je pense qu'il aura la majorité dont il a besoin.
Les interlocuteurs de Félix Tshisekedi ne demandent pas seulement la dissolution de la coalition. Ils ont aussi demandé au chef de l'État la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la crédibilisation des élections 2023 ainsi que la relance économique et sociale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce sont des demandes très pertinentes parce que effectivement, ce qui est absolument vital dans notre pays, c'est restaurer la paix et la sécurité. Oui, parce que sans ça, évidemment, les actions de développement risquent d'être entravées, d'être plombées. Mais à côté de ça, il y a toutes les questions sociales, la situation, les conditions sociales de la population congolaise qui, malheureusement, après ces deux ans d'alternance démocratique, n'ont pas vraiment, ne se sont pas améliorés. Il y a une telle misère criante dans le pays et donc il faut redresser l'économie. Il faut trouver, imaginer de nouvelles stratégies pour que l'État engrange beaucoup plus d'argent qu'il va consacrer à tous ses programmes sociaux. Et là, effectivement, quand nous disons État de droit, c'est pas seulement le procès des 100 jours. État de droit, ça veut dire mettre fin à ces exonérations vraiment scandaleuses dont bénéficient certains hommes d'affaires, c'est récupérer l'argent là où on sait qu'il a fouté. Il y a des scandales comme le scandale du SCI, on attend toujours. Donc voir que les Congolais payent leurs impôts, mais aussi en tant qu'État être redevable vis-à-vis de ce peuple qui paye ses impôts. On paye pas les impôts pour que certains leaders ou personnalités mettent l'argent dans leur poche. Donc non, effectivement, il y a vraiment la tâche est toujours titanesque, aussi bien au niveau comme je disais sécuritaire, économique, mais surtout social. Il est regardez ce projet louable, cette idée noble de rendre l'enseignement primaire gratuit, mais regardez les difficultés qu'on rencontre parce que justement.
Est-ce que c'est à cause du FCC?
Pas assez d'argent. Parce que je dis pas à cause du FCC. Vous savez, on n'est pas dans un monde manichéen où le FCC est tout mauvais, c'est le diable, et de l'autre côté, nous sommes des anges. Non. Dans le FCC, il y a des gens compétents, il y a des gens qui veulent aussi le bonheur de ce pays, mais il faut pouvoir les encourager à sortir de ce carcan dans lequel ils se sont mis et de se dire, bon, il y a un nouveau régime aujourd'hui, il y a une alternance, bon, même si je n'appuie pas à 100% le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, mais j'accepte les règles républicaines, on le laisse travailler en 2023, eh bien, on fera le bilan, on sera les censeurs, ou bien à nouveau on va l'appuyer. Mais ce jeu-là de dire, oui on est dans une coalition, mais en douce, à chaque fois mettre des blocages, des barrages, non, c'est absolument pas républicain, et moi je pense que ce n'est absolument pas aimer ce pays.
Angèle Macombo, puisque vous avez parlé des gratuités, pourquoi selon vous cette gratuité ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à concrétiser la gratuité de l'enseignement de base en RDC?
L'idée, comme j'ai dit, elle est noble. L'enseignement primaire doit être gratuit. D'ailleurs, c'était l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Mais il faut voir d'où on est parti. L'enseignement, elle sera peut-être gratuite. On a dit qu'on la veut gratuite pour les enfants qui vont à l'école. Les parents vont pas payer. Mais elle n'est pas gratuite, en fait, parce que l'État doit payer. L'État doit s'occuper des infrastructures scolaires, doit s'occuper du programme, des manuels, etc. L'État doit s'occuper de la formation des maîtres, des enseignants et les payer un salaire correct. Et pourquoi ça marche pas en ce moment? Parce que effectivement, une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule, il y avait une certaine dichotomie. L'école primaire laïque où l'État, les parents donc payaient, hein, pour supplier au salaire des enseignants, et il y avait par exemple les écoles catholiques ou protestantes, etc., subventionnées. Mais là où effectivement les parents aussi payaient, donc ils recevaient un salaire plus ou moins décent. Aujourd'hui, patatras, on dit il faut la gratuité, l'État va payer, mais l'État va payer combien? J'ai entendu les sommes de 250 ou 300 dollars par enseignant, alors que par exemple, le même enseignant dans une école catholique subventionnée, on me dit gagner 500, 600 ou 700 dollars. Donc là, il y aura un manque à gagner, une baisse énorme du pouvoir d'achat de ces enseignants, et ce qui est absolument normal, c'est absolument légitime de ne pas pouvoir accepter que du jour au lendemain, on vous baisse de moitié votre pouvoir d'achat. Donc voilà pourquoi il y a une des raisons pour lesquelles il y a des revendications, les gens sont pas contents, etc. Bon, mais je pense que là, c'est comme dans tout pays, problème dans un pays, il faut pouvoir se mettre autour de la table avec les interlocuteurs concernés, pertinents dans l'enseignement, l'Église catholique, l'Église protestante, etc., l'État, hein, notamment au niveau du gouvernement, le ministère de l'Éducation, et pouvoir régler ce problème, parce que effectivement, il y a toujours des grèves des enseignants, et nos enfants, on les voit, ne vont pas à l'école, nos enfants vont le matin, certains vont à des manifestations pour revendiquer justement leur droit à l'enseignement.
Plusieurs questions sont soulevées au cours de ces consultations du chef de l'État. On va parler de la CENI. Il y a des acteurs politiques qui ont demandé au chef de l'État que la CENI puisse être dépolitisée.
Une réclamation tout à fait légitime, il faut la dépolitiser, mais il ne faut pas seulement que ça soit un slogan, dépolitisons la CENI. Il faut se demander comment on fait pour la dépolitiser. Et jusqu'à présent, depuis que la CENI existe, depuis nos trois cycles électoraux, effectivement, la CENI est à la solde du pouvoir en place. Et là, il faut pouvoir mettre fin à ça, notamment en nommant des personnes intègres, des personnes qui travaillent pour que les élections marchent. Et il faut aussi, avant ça, pour pouvoir avoir une nouvelle CENI, il faudrait peut-être auditer cette CENI, auditer comment elle a géré les élections précédentes pour pouvoir tirer les leçons de ce qui a été mal fait et de ce qui pourrait être amélioré. Mais c'est absolument urgent. D'abord l'audit, hein, l'audit de la gestion, l'audit des fonds, etc. Et ensuite, on passe à la question de la nomination des membres dirigeant de la CENI. Mais là où il y a problème...
Une CENI sans personnalité politique, une CENI constituée essentiellement des membres de la société civile.
C'est là où j'en voulais en venir, parce qu'on peut dire dépolitiser, mais si on continue justement à nommer les leaders de la CENI en fonction du partage politique, eh bien ça n'ira pas. Mais quand on dit il faudrait des personnalités de la société civile, je veux bien, mais je mettrai un bémol, parce que en RDC et dans d'autres pays africains, la société civile, elle est politisée. La société civile, il y en a une qui est proche du SCC, notamment PPRD, il y en a une qui est proche du CASH. Il faut pas se leurrer. La société civile en RDC est politisée, et vous remarquez d'ailleurs que il y a des personnalités de la société civile qui flirtent un peu entre la société civile et la politique. Ils ne prennent pas une position ferme. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer en pensant que dire personnalité de la société civile à la CENI, ça sera c'est la panacée, ça va marcher. Parce que là encore, il risque d'avoir des problèmes. Moi, je dis toujours, aussi bien pour la CENI que pour la nomination de mandataire, que pour la nomination de ministre, en plus du CV de quelqu'un, à savoir son diplôme, son parcours, etc., moi, j'insiste beaucoup sur la nécessité de vérifier le background de la personne, la nécessité de vérifier son niveau d'intégrité. Et on vérifie ça, eh bien, de ce côté-là, j'aime bien un peu le système américain pour ce genre de questions de nomination. Eh bien, on fouille dans la vie de quelqu'un, on le met sur le grill, il a à répondre de questions précises, etc. Et on se limite pas seulement à son CV.
Angèle Makombo, qu'est-ce que vous vous attendez de ces consultations en tant que présidente d'un parti politique?
Eh bien, je vais être directe. Ce que moi j'attends de ces consultations, effectivement, que le président puisse dégager une majorité qui va lui permettre de travailler, une majorité parlementaire. La deuxième chose que j'attends...
Au cas où il n'arrivait pas à dégager cette majorité?
Eh bien, au cas où il pourrait pas dégager cette majorité, eh bien, malheureusement, il faudra peut-être envisager la dissolution. Mais je voudrais insister sur aussi le fait que cette majorité va lui permettre de nommer de nouveaux animateurs dans le gouvernement. Et là, j'insiste pour qu'on n'ait plus un gouvernement pléthorique avec 65 ministres. C'est même scandaleux en cette période de marasme économique, de difficultés financières. Il faut un gouvernement, moi je dirais, avec un maximum d'une trentaine de ministres. Et il ne faut pas saucissonner les ministères pour juste satisfaire les différentes forces politiques.
Est-ce que c'est pas à ça qu'on va arriver, puisque le chef de l'État, il faudra récompenser toutes les personnes qui ont accepté de l'accompagner?
Eh bien oui, c'est le problème, effectivement, parce qu'il consulte les personnalités qui ne travaillaient pas avec lui hier, qui vont accepter de le rejoindre ou de le soutenir, évidemment, vont certainement demander je veux qu'il y ait je sois représenté dans le gouvernement, etc. Mais c'est à lui, le chef de l'État, d'être le chef, hein, c'est le chef de l'État de décider. Oui, vous me soutenez pour l'action du le gouvernement, pour que le Congo avance, mais tout le monde ne va pas être dans le gouvernement, parce qu'un gouvernement pléthorique, ça coûte de l'argent, hein, et cet argent, on pourrait peut-être le consacrer à autre chose. Et vous me demandez ce que j'attends. Si j'attends des décisions fortes du style que nous le voyons, que l'état du ministre en train de vivre. J'attends de ces consultations qu'il y ait des mesures concrètes pour améliorer le vécu quotidien des Congolais. J'attends de ce gouvernement que l'état de droit devienne une réalité. Évidemment, nous avons déjà vu des signaux, hein, de ce processus d'instauration d'état de droit, mais il faut aller plus en avant, il faut aller plus vite. Le problème au Congo, on travaille comme si on avait toute la vie devant nous. Non, nous devons travailler plus vite. Le pays que le Seigneur nous a donné, on est béni des dieux, on a tout dans ce pays, toutes les richesses, et puis on a une population industrieuse, une population travailleuse, et qui n'attend qu'une chose, que son chef l'aide à avoir un meilleur vécu quotidien.
Angèle Makombo, une dernière question avant de nous séparer. On sait que vous vous battez beaucoup pour qu'on donne l'opportunité à la femme congolaise de faire entendre sa voix à la faveur du changement politique en RDC. Qu'est-ce que les femmes peuvent attendre de ces consultations?
Moi, j'ai noté en tout cas dans le discours du chef de l'État, son adresse à la nation du 23 octobre, que l'un des points sur lequel il a insisté, quand il listait les tâches qu'il a à faire, il a parlé de promouvoir davantage les droits des femmes. Et je pense que effectivement, notre pays, comparativement à pas mal de pays africains et dans le monde, on est en retard dans ce domaine-là. Mais le chef de l'État a montré quand même sa volonté de faire bouger les lignes, bouger les choses. On a eu à nous le dire, les femmes, quand on se plaint qu'au gouvernement, je crois qu'on est à peine 17% de femmes, on nous a dit, vous avez la qualité, mais vous n'avez pas encore la quantité. Eh bien, moi, ce que je demande au chef de l'État, nous voulons les deux. des femmes valables, solides, compétentes dans ce pays, il y en a. Donc, il faut pouvoir en nommer. Et ce n'est pas absolument inapproprié de la part des femmes d'exiger qu'on ait au moins 30% de femmes. Regardez, l'article 14, d'ailleurs, parle de parité. Donc, des femmes solides, il y en a. Il faut les chercher et placer la femme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Anjelma Kombo, présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Kéline Kouté, de m'avoir associée aujourd'hui au programme de Radio Capi. Merci beaucoup.
L'interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Angèle Makombo, présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la prise des sons. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.